this sinner been forgiven. Yes, I am.
Jésus dit, je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme un enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Been, oh, ooh, the way I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
It's a good day. Na na na.
Place maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
Genèse 21, les versets 14 à 21. Histoire un peu épique d'une femme qui va être rejetée par son compagnon et qui va se retrouver très rapidement dans des difficultés majeures. Lisons ensemble. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habitant dans le désert et devint tireur d'arc. Il habitait dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Lisons aussi dans Genèse 50, versets 19 et 20. On retrouve Joseph, après la mort de son père Jacob, face à ses frères qui craignaient que maintenant que le pater était mort, qu'il allait se venger du fait qu'il l'avait vendu. Et ils viennent auprès de lui, tremblant de peur, lui demandant de leur pardonner leur méfait d'il y a déjà des années en arrière. Et voilà ce que Joseph va leur dire, verset 17 déjà. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent « Nous sommes tes serviteurs ». Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. » Je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Saviez-vous que Dieu poursuit des buts avec tout ce qui vous arrive, avec tout ce qui m'arrive? Saviez-vous que derrière tout ce qui vous arrive et tout ce qui m'arrive, Dieu poursuit un but précis? Proverbe 16, verset 4, il est dit « Dieu a tout fait pour un but. » Plutôt, « Dieu a tout fait dans une intention précise. » On a du mal à imaginer, n'est-ce pas, en voyant Joseph être vendu par ses frères, qu'il puisse y avoir quelque chose de bien qui en sorte de là. On a du mal à croire que de voir Agar être chassée dans le désert, qu'il puisse en sortir quelque chose de bon. Et pourtant, Dieu est capable de tirer le mal du bien. Agar avait de sérieux problèmes suite à la polygamie d'Abraham. Et si vous lisez la Bible de long en large et en travers, à chaque reprise où vous trouvez un homme polygame, il y a des problèmes familiaux terribles. Autant pour Abraham que pour Jacob, que pour David. Lisez un peu l'histoire de près, lisez les vies de famille qu'il y a et chaque fois il en est sorti des problèmes terribles. Et puis ça a viré au vinaigre. Bien-aimé, Agar avait de sérieux problèmes et apparemment elle n'avait jamais de sa vie fait appel à son Dieu. Et son problème l'a amené à se tourner vers Dieu. Mon thème est le suivant, transformé par les difficultés. Jésus nous a avertis en nous disant que toute vie, quelle qu'elle soit, va rencontrer des tempêtes. Autant la maison bâtie sur le roc que celle bâtie sur le sable va rencontrer des tempêtes. Toutes ne sont pas énormes. Mais néanmoins, n'est-ce pas, Dieu va utiliser ces tempêtes dans nos vies pour accomplir ses buts. Et un de ses buts, c'est que nous le rencontrions et que nous le connaissions. Combien d'entre nous sont là ce soir et peuvent dire honnêtement, c'est parce que j'avais des problèmes que j'ai découvert Dieu. Parce que j'avais des problèmes majeurs. J'étais arrivé au bout du rouleau. J'avais plus de solution humaine. C'est là enfin que j'ai commencé à crier à Dieu. Et puis le second but que Dieu poursuit en nous, c'est de nous façonner à la ressemblance du caractère de Jésus. Vous qui êtes croyants, j'aimerais vous dire que Dieu va utiliser les difficultés pour nous façonner à la ressemblance de Jésus. Tous les jours, constamment, il travaille en cela. Et c'est un réel processus de croissance qui comporte des crises que Dieu utilise pour nous faire parvenir à son but. Trois pensées principales que je voudrais développer. Première pensée, c'est Dieu poursuit un but au travers de chacun de nos problèmes. Pour cela, deuxièmement, il faut bien comprendre le fameux verset de Romains 8, 28 qui dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Troisième point, c'est important de bien réagir face à nos problèmes. Je voudrais vous montrer, Bible en main, quelques bonnes réactions qui nous permettent de vaincre les problèmes et d'en sortir meilleurs. Amen. Premier point, Dieu a une intention derrière chaque problème. Il a un but derrière chaque problème qui heurte nos vies. Premier point peut-être, c'est il utilise les problèmes pour nous rapprocher de lui. Psaume 34, verset 18 dit « Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé ». C'est incroyable comme on trouve le chemin de la prière quand il y a des difficultés. Même en tant que croyant, on est capable d'oublier Dieu, ou plutôt de le négliger. Mais quand il y a des problèmes qui arrivent, c'est fou la vitesse à laquelle on trouve le chemin de la chambre pour aller prier sur ses genoux. En tout cas, j'ai vu ça chez moi. C'est fou comme chaque fois que j'ai des problèmes, combien vite je trouve le chemin de la prière. Combien vite je trouve du temps pour aller prier et pour aller l'adorer tout seul dans la chambre, dans la loge secrète du Très-Haut. Rappelons-nous l'ami Daniel, n'est-ce pas? C'est dans les problèmes que Daniel le prophète va trouver le temps de prier avec ses amis des nuits complètes. Et c'est là, dans les problèmes, qu'il va rencontrer Dieu dans une nouvelle dimension. Dieu aurait pu épargner à Agar le désert, la fosse au lion à Daniel. Il aurait pu éviter à l'ami Joseph d'être vendu par ses frères. Il aurait pu éviter à l'apôtre Paul les trois naufrages. Mais toutes ces choses sont arrivées pour la bonne et simple raison que Dieu a voulu les rapprocher de lui. Et bien aimé, nos problèmes qui nous arrivent dans nos vies, au quotidien, croyants ou non-croyants, sont destinés à nous rapprocher de lui. Récemment, j'ai dit à un homme qui vraiment a de quoi vivre sans travailler, mais qui a dans sa vie un creux et un vide qu'il poursuit, qu'il essaie de combler. Je lui ai dit, pourquoi n'essaierais-tu pas un jour d'en parler à celui qui peut te combler, le Christ? De commencer tout seul chez toi à la maison à te mettre à genoux et à lui parler, à lui remettre ton cœur. Il m'a dit, ça c'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile parce que l'orgueil humain nous empêche de nous mettre à genoux et de crier à Dieu. Mais Dieu utilise nos problèmes pour que nous nous rapprochions de lui. Au-delà de vouloir nous donner une solution ou de nous bénir, il cherche à ce que nous rapprochions de lui et que nous le découvrions. L'important, c'est que mon cœur découvre qui est Dieu. Le problème nous oblige à lever les regards vers Jésus, à dépendre de lui et à n'espérer qu'en lui. L'apôtre Paul, à un moment donné, va dire la chose suivante, alors qu'il avait été chassé dans la province d'Asie, qu'il avait vécu des persécutions considérables. Il va dire en 2 Corinthiens 1, verset 9, « Nous avions l'impression que la peine de mort avait été décidée contre nous. Cependant, il en fut ainsi pour que nous apprenions à ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ramène des morts à la vie. » Deuxième point, Dieu contrôle la situation. Quel que soit votre problème, aucun ne vous est survenu sans la permission de Dieu. Je sais que ce que je dis là peut être difficile à avaler. Je pense à la femme qui est abandonnée avec son enfant. Je pense à cette personne qui tombe malade d'un cancer. Je pense à celui qui a été licencié ces jours-ci, peut-être. Seigneur, comment se fait-il que tu aies permis tout cela? J'aimerais vous dire que Dieu le permet, mais tout ce qui nous arrive à nous, enfants de Dieu, a été filtré par le Père dans le ciel et est destiné à notre bien, même si le monde ou si le diable nous l'envoie pour notre perte. Le psaume 23 déclare une chose fondamentale, que l'Éternel est mon berger. Le jour où j'ai remis ma vie au Seigneur Jésus, il l'a prise en charge. Il est devenu mon berger et c'est maintenant lui qui me conduit. Il me conduit jour après jour. Et même si on traverse la vallée de l'ombre de la mort, j'aimerais vous dire qu'il est avec nous. Amen. Il est là avec nous et près de nous. Chaque jour de notre vie a été rédigé sur le calendrier de Dieu. Avant même qu'on soit né, tout ce qui nous arrive, Dieu le savait déjà à l'avance. Et il a pourvu à des solutions pour nos vies. Dieu nous aime et Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Comprenons bien cela ensemble. Dieu n'a pas dit « Je fais tout pour que ta vie aille au mieux ». Dieu n'a jamais dit non plus qu'il fait tout pour que dans notre vie, tout finisse par un happy end. Ce n'est pas vrai non plus. Il y a des fois des situations qui ont mal fini. Il y a des gens qui sont morts de leur cancer. Et des mariages qui ont été brisés malgré tout. Mais cependant, à la fin de l'histoire, comme à la fin de l'histoire de Joseph, où nous l'avons lu avant, eh bien Dieu a tout fait concourir pour le bien de ceux qu'il aimait. Notre espérance n'est pas fondée sur un optimisme naturel, mais sur la certitude que Dieu contrôle tout souverainement et nous aime de manière inconditionnelle. Nous l'avons chanté avant, l'Éternel règne. C'est tiré d'un psaume en plus. Alors c'est mignon tout ça. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. L'Éternel règne. Le jour où je lui ai remis ma vie, eh bien, il a pris le trône de mon cœur et maintenant il dirige ma vie. Non pas que je sois passif à subir la vie comme une marionnette serait tirée par les ficelles d'un marionnettiste. Pas du tout. J'ai ma décision, j'ai ma liberté, mon libre arbitre. Mais cependant, Dieu, il a tout paramétré dans ma vie, même ces choses-là, même mes erreurs, même mes péchés, pour que toute chose concourt à mon bien. Dieu fait concourir toute chose à mon bien. Dieu fait. Il y a un artisan derrière nos vies et il décide et il fait aucune erreur. Il fait tout. Le plan de Dieu pour notre vie inclut tout ce qui nous arrive. Nos erreurs, nos blessures, nos maladies, la mort d'être cher. Dieu peut tirer le meilleur du pire. Et la meilleure preuve, c'est la croix. À la croix, le diable a voulu anéantir Dieu lui-même. Et au fait, la croix a été la victoire de Dieu sur le diable et sur le monde. Dieu peut tirer le meilleur du pire. Le pire était arrivé à Agar. Excusez-moi, pas de sécu, pas d'alloc, pas d'homme en vue non plus. Un enfant adolescent, une miche de pain et un peu d'eau comme seule bourse. Elle part dans le désert, l'enfant se déshydrate. L'eau très vide, elle n'a plus de force. On ne peut imaginer pire, excusez-moi. Mais Dieu peut tirer le meilleur du pire. Et ce garçon a pleuré, cette femme va hurler, elle crie à Dieu. Et Dieu va intervenir magistralement. J'aimerais te dire que Dieu a une solution aussi pour ta vie. Si tu oses crier à lui, Dieu peut faire concourir toute chose à ton bien. Le mot est choisi. Toute chose. Concourt ensemble, non pas isolément, mais ensemble au bien de nos vies. Il n'est pas dit que tout ce qui nous arrive est bien. Nous vivons dans un monde déchu, où il y a la maladie, où le péché règne. Amen. Oui, toute chose concourt au bien. Tout ce qui se passe dans le monde n'est pas bien, mais Dieu est spécialisé dans le fait de tirer le meilleur du pire. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez voir là, l'ascendance du Seigneur Jésus. Et je vous assure, il y a des fois, j'aurais pas été fier d'être à sa place, vu les arrière-grands-parents qu'il avait. Par exemple, on y trouve une certaine Bathsheba. Pardonnez-moi, c'était pas forcément non plus une sainte, ni touche. Elle est partie avec David et a fait un enfant illégitime. Et ailleurs, on trouve Rahab. Elle était prostituée à Jéricho. Elle se trouve dans la lignée ascendante de Jésus. Et enfin, on trouve aussi une certaine Tamar. Alors Tamar était qui? C'était la belle-fille de Judas. Et cette belle-fille n'a pas eu des enfants du fils de Judas. Premier mort, le second aussi. Et alors il y avait un troisième fils, quelle histoire, qui était encore trop jeune pour la marier. Alors elle a attendu qu'il soit grand, et quand il était grand, il ne voulait pas la marier. Et du coup, elle a voulu se venger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle va s'habiller en prostituée. Et c'est Judas, le beau-père, qui va aller avec elle. Et figurez-vous que c'est à partir de ce descendant-là que Jésus va venir. Autrement dit, Dieu est capable de tirer le meilleur du pire. Mais des fois, nos erreurs, nos incohérences, Dieu peut les transformer et en faire des choses bien. Notre bien ultime, Dieu veut nous rapprocher de lui. Et si vous aimez Dieu, Dieu peut transformer le mal en bien et changer le malheur en bénédiction. Le connaissez-vous? L'aimez-vous? Sinon, vos malheurs risquent de vous causer de l'amertume et votre perte. Et finalement, le projet de Dieu, Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, à nous qui sommes appelés selon son projet. Et quel est son projet? Nous sommes destinés à ressembler à son Fils. Alors comment réagir aux problèmes en tant que croyants lorsqu'ils nous arrivent? Trois suggestions très rapidement. Les difficultés que nous rencontrons ne produisent pas toujours forcément les effets désirés par Dieu. Beaucoup peuvent devenir amers et non meilleurs, se rebellant contre Dieu ou ne grandissant pas. Alors comment réagir? Premier point, se rappeler que le plan de Dieu pour nous est un bon plan. Que Dieu a des bons projets avec nous, même quand on traverse le feu du creuset, la vallée de l'ombre de la mort. Le plan de Dieu pour nos vies est un bon plan. Jérémie 29, 11 dit, « Car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et de l'espérance. » Bien-aimé, Joseph, fils de Jacob, il m'impressionne par le fait que cet homme n'a jamais désespéré de Dieu malgré les difficultés majeures qu'il a rencontrées. Vendu par ses frères, oh, il a sûrement eu des moments de révolte, des moments de haine, mais cependant, il n'a jamais désespéré de Dieu. Il a continué à être fidèle à Dieu et à le servir tranquillement. Mis injustement en prison, il va continuer à servir fidèlement son prochain et à oser espérer en Dieu. Oublié par le panetier et par les chansons du roi, il va en continuer à espérer en Dieu. Et finalement, Dieu va honorer sa foi. Combien auraient dit, eh bien Dieu m'a lâché, il m'a abandonné, mes frères m'ont vendu. Arrivé devant la femme de Potiphar, il aurait pu se dire, profitons-en, Dieu m'a oublié. Il était beau garçon, et Madame Potiphar se livrait à lui, gentiment. Eh bien, il a refusé. Il n'a jamais cessé d'espérer en Dieu. Et au fond de la prison, il aurait pu devenir dépressif et découragé. Il va continuer à espérer en Dieu. Et il se rappelait ces fameux songes qu'il avait reçus. Qu'un jour, eh bien, ses frères se plieraient devant lui. Et finalement, il a obtenu gain de cause. Ézéchias, le roi, va dire la même chose. Il va dire à un moment donné, et c'est Isaïe qui le dit dans Isaïe 38, verset 11, il dit, « Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. » Il est vital de rester, je dirais, focalisé sur ce que Dieu veut faire de nos vies, plutôt que sur le problème qui m'atteint maintenant, actuellement. Jésus, face à la croix, aurait pu être désespéré. Mais il va accepter la honte de la croix. Il va accepter de mourir crucifié en vue de la joie qui lui était réservée. Il savait quel allait être l'effet de la croix sur l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'il a eu la force de dire non à la tentation de se rebeller contre Dieu. Il savait que le plan de Dieu était bon, qu'il y avait un avenir et de l'espérance. Et merci Seigneur que tu es tenu bon, parce qu'aujourd'hui nous sommes le fruit de cette persévérance. Amen. Deuxième point, dans les difficultés, Dieu nous invite à nous réjouir et à lui rendre grâce. Il est marqué dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Remarquez, il n'est pas dit « Remerciez Dieu pour toutes circonstances, mais en toutes circonstances. » Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Alors je peux comprendre que ce genre de verset est particulièrement irritant pour ceux qui traversent l'épreuve à l'heure actuelle. Mais cependant, il contient quelque chose de bon. Dieu n'attend pas que nous le remercions pour le péché et ses conséquences. Mais Dieu attend de nous que nous osions nous réjouir en lui, en celui qui pardonne et qui donne la force de pardonner, de nous réjouir en lui, qui pourvoit à de nouvelles solutions dans les problèmes où nous nous trouvons. Dieu est ce Dieu qui est capable de changer le mal en bien et nous invite à relever notre regard et à nous réjouir en lui et à entrevoir en lui la solution qu'il va donner pour l'heure présente dans la souffrance. Amen. Osons voir eh bien, le Dieu de providence qui va envoyer la providence, le soin, la sagesse, la puissance et sa fidélité lorsque nous traversons l'épreuve. Et osons nous réjouir de savoir autre chose encore, de savoir que Dieu passe avec nous dans la souffrance. Récemment, j'ai redécouvert un verset. Je lisais le psaume 91 tranquillement. Je le lisais et je le relisais. Et il est marqué là, à la fin du psaume, une phrase qui m'a percuté le cœur. Il est dit là, « Je suis avec toi dans la détresse. » Combien souvent, quand on est au fond du trou, on se dit, « Dieu m'a lâché. » J'aimerais te dire que c'est faux. À vous qui êtes au creux de la vallée, j'aimerais vous dire que Dieu est avec vous dans la détresse. C'est un jour le frère Brombrand qui avait été pendant 14 ans en prison dans les prisons de Ceaușescu, qui avait été battu une nuit complète par ses bourreaux et qui entendait un autre coprisonnier être battu par ses bourreaux qui lui arrachait là des cris de douleur. Et dans sa détresse, il criait à Dieu, « Mais Seigneur, mais où es-tu ?» À ce moment-là, ce compagnon de prison criait de douleur, hurlait sous les coups. Et Dieu lui disait dans son cœur, « C'est moi qui crie maintenant. C'est moi qui crie au travers de ce prisonnier. » Je me dis, mon frère, ma sœur, es-tu au fond du creuset? Es-tu au fond du trou? Je me dis que Dieu est avec toi au fond du trou. Je serai avec toi dans la détresse. Je serai avec toi et je traverserai avec toi la vallée de l'ombre de la mort. Certes, nous sommes affligés, mais pas écrasés. Réjouissons-nous en Dieu et osons lui rendre grâce en toutes choses. Enfin, troisième point, c'est le point que m'a impressionné chez Joseph, pendant ce qu'il n'a jamais cédé à l'envie de baisser les bras. Jacques, chapitre 1, verset 3 à 4, il est dit, « Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche, que votre patience se manifeste dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi, vous parviendrez au but, vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. » Bien-aimé, parfois l'épreuve dure un certain temps et un temps certain, parce qu'il y a un travail en profondeur que Dieu veut faire en nous, un travail d'orfèvre. Et il va ciseler, il va tailler, il va polir les diamants que vous êtes. Et il va y mettre tout son temps qu'il faudra. Le temps nécessaire, ni plus, ni moins. Et pendant ce temps, on est invité à rester patient et persévérant, à faire le bien, en nous rappelant constamment que le Dieu que nous servons est le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert et fait couler des fleuves dans la solitude. Pour Agar, apparemment, il n'y avait plus de situation, plus de solution possible. Et pourtant, pour Agar aussi, comme le dira Ésaïe le prophète, dans Ésaïe 43, verset 18, il est le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert. Il fait venir, il fait couler pardon, des fleuves dans la solitude. Pour Jacob, c'en était fait. Il allait avoir la tête coupée par Ésaü. Et pourtant, Dieu va incliner le cœur d'Ésaü à l'égard de Jacob. Il va lui laisser la vie sauve. Pour Joseph, c'était terminé. Il allait être oublié au fond d'une geôle égyptienne. Eh ben non, Dieu lui-même va ouvrir un chemin dans le désert et envoyer un songe à Pharaon. Et personne ne saura expliquer le songe. Et c'est là que les chansons se souviendra de Joseph et ils le feront appeler. Et on connaît le reste de l'histoire, n'est-ce pas? Le Dieu que nous servons est le Dieu qui ouvre un chemin dans le désert. Mon frère, ma sœur, sur ton désespoir, ne désespère pas. Au contraire, ose espérer. Là, il n'y a aucune espérance. Ose croire que le Dieu que tu sers avec ferveur et avec patience et persévérance est celui qui ouvre un chemin dans le désert. Amen. Reste fermement accroché à lui. Ose persévérer en lui. Dieu poursuit ses buts avec les difficultés que nous rencontrons. Amen. Il nous rapproche de lui et il nous travaille à la ressemblance de Jésus. Et vous savez que vous mûrissez dans le Seigneur quand vous reconnaissez la main de Dieu derrière les circonstances des fois déroutantes de la vie. Alors, si vous traversez des difficultés actuellement, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» mais plutôt « Seigneur, que veux-tu que j'apprenne par là ? En quoi veux-tu que je grandisse ?» Et puis ensuite, faites confiance à Dieu et continuez à persévérer à bien faire. Continuez à persévérer, à louer le Seigneur, continuez à le servir, continuez à marcher droit et surtout, n'allez pas vers les solutions de raccourci ou de remplacement. Par exemple, retournez dans le monde. Retournez à mes vices cachés. Retournez à mon péché. Non. Au contraire, restez persévérants, car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez les choses qu'il vous a promises. Amen. Je résume et je conclue. Dieu poursuit un but au travers de chacun de nos problèmes. Et le premier but qu'il poursuit dans nos vies, c'est de nous rapprocher de lui. Combien souvent la prière retrouve la priorité quand les problèmes heurtent nos vies. Rapprochons-nous de lui, que vous le connaissez de longue date ou pas du tout. C'est le moment de vous approcher de lui et Dieu s'approchera de vous. Deuxièmement, son but est aussi de rendre nos caractères semblables à celui de son fils et à cet effet, il va utiliser différents moyens dont les difficultés. Comprenons bien Romains 8, 28. Et enfin, j'aimerais vous dire, réagissons bien aux problèmes en nous ou autour de nous, en nous rappelant que le plan de Dieu pour nos vies est un bon plan. Il fut un temps où je ne comprenais pas Dieu. Je donnais ma vie, et alors j'ai fait différents choix dans ma vie qui m'emmenaient des difficultés singulières, notamment dans un métier que je n'aimais pas du tout. Et je me suis dit, mais pendant 40 ans de ma vie, je vais faire ce boulot avec des petits mômes de 3, 4, 5 ans? Non mais attendez. Et je râlais avec Dieu. Et je disais, mais Seigneur, mais comment as-tu permis que j'en arrive là? Pourquoi n'as-tu pas fait que une chose arrive pour que je sois épargné de tout cela? Et pendant un ou deux ans, j'ai vraiment râlé avec Dieu. Et je faisais le travail à contre-cœur. Jusqu'au jour où ma mère m'a dit, mais change de place. Va travailler dans notre poste. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit, Seigneur, c'est très simple. Voilà, je te prie pour ce travail. Donne-moi un poste qui me plaît, où j'ai de la joie, du plaisir à travailler. Sinon, je vais tout lâcher et je vais refaire des études. Et je me rappelle très bien ce jour-là où j'arrivais, j'avais prié pour un poste où j'aurais les grands enfants, les CM1, les CM2, enfin les grands quoi. Moi, les petits ne m'intéressaient pas du tout. Et j'arrive tout fier, tout content, me disant que vu que j'avais reçu le village où je voulais travailler, je me suis dit je vais recevoir le poste que je voudrais. Et j'arrive, il y avait deux postes. Et j'ai eu celui que je ne voulais pas. Les petits. Et alors, je recommence à râler avec Dieu, mais c'est pas possible, on te prie, alors tu fais le contraire de ce qu'on te demande, mais c'est pas possible. Enfin, je lui ai dit, tu prends précision, tu verras, Dieu va répondre avec précision. Ah ben oui, précisément le contraire. Et je m'en souviendrai à vite ce moment, c'est un samedi matin à 11h. En plus, la classe venait d'être refaite, ils avaient laissé plein de chantiers partout, il fallait tout nettoyer, pas de femme de ménage. Et les cours étaient pour lundi matin 8h. Poussière partout. Et en plus, ma voiture avait une panne. Donc j'étais en panne dans un village avec la poussière partout et une rage au ventre. Et j'ai dit, Seigneur, mais je ne te comprends pas. Mais je comprends plus ce que tu me veux. Et à un moment donné, j'avais eu comme une espèce de flash dans mes yeux. Je voyais une espèce de une force mauvaise venir vers moi. Et j'ai dit, maintenant, au nom de Jésus, tu vas plier le genou. Et j'ai vu au fond de moi toute une négativité que j'ai dû abandonner. Et dire, maintenant, ça suffit. Seigneur, je t'ai prié pour un poste ici dans ce village et je veux croire que tu me donneras là dans ce village la bénédiction et la joie de faire ce que j'ai à faire. Et tout à coup, au fond de moi, une chose avait changé. J'ai retroussé mes manches, nettoyé la salle de classe, j'ai réparé la voiture, je suis rentré à la maison, préparé les cours et les 3 mois qui ont suivi ont été 3 mois où j'ai pris mon pied à travailler avec des petits-enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et vous savez quoi? Je me suis rendu compte avec du recul que Dieu m'avait fait faire des erreurs même, m'avait laissé faire des erreurs dans ma vie qui m'ont abouti à ce travail-là parce que ce travail-là allait être pour moi une superbe école pour le travail que je fais actuellement. Tu m'as façonné et forgé et fait comprendre tellement de choses au travers des enfants que je peux dire aujourd'hui que Dieu avait fait concourir toutes choses à mon bien parce que je l'aime.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
It's amazing how you can speak right to my heart. Saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile. Touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.
Chaque jour, un mot d'encouragement avec Bob et Debbie Gass.
Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Matthieu 15, verset 14. Choisir un dirigeant. Bonjour à tous. Il y a beaucoup de bons dirigeants. Mais qui sont ces guides aveugles dont parle Jésus? Voici quelques signes qui nous aideront à les identifier et à les éviter. Premièrement, ils sont inflexibles. En revanche, les vrais leaders sont des serviteurs et sont réceptifs à l'enseignement. Ils se réjouissent de votre croissance et n'essaient pas de vous étouffer. Deuxièmement, ils sont élitistes. Si on ignore l'importance des autres et on n'arrive pas à être en communion avec eux, c'est un grave problème. L'égocentrisme est proche de la paranoïa. Troisièmement, ils sont cupides. Selon Dieu, le bon responsable doit faire paître le troupeau de Dieu non pour un gain sordide, mais de bon cœur. 1 Pierre 5, verset 2. La Bible dit aussi que les bons dirigeants sont dignes d'un double honneur. 1 Timothée 5, verset 17. Méfions-nous de ceux qui nous interdisent de semer ailleurs que dans leur jardin. Quatrièmement, ils sont irresponsables. Prenons garde à ceux qui se disent intouchables et loin de Dieu. Peu importe son talent, on doit accepter la confrontation et le conseil pour pouvoir s'attaquer à ses angles morts. Salomon a dit, Malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, verset 10. Et voici ce que Jésus disait des chefs religieux de son temps. Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu 15, versets 13 et 14. Un bon dirigeant est humble et serviable, non hautain et égoïste.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, l'émotion partagée.
Wide awake while the world is sound asleep, and too afraid of what might show up while you're dreaming. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. Every day you try to pick up all the pieces, all the memories that somehow never leave you. Nobody, nobody, nobody sees you. Nobody, nobody will believe you. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only knows. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. But God only knows the real you. 'Cause there's a kind of love that God only knows. Told them they would leave. But somebody, somebody, somebody sees you. Somebody, somebody will never leave. God only knows what you've been through. God only knows what they say about you. God only knows how it's killing you. But there's a kind of love that God only.
Et je noie mes larmes. Existe-t-il un mariage parfait ? Je constate que même les couples mariés épanouis reconnaissent que leur bonheur peut progresser. Et les couples ayant des difficultés dans leur mariage ont du mal à retrouver leur équilibre. Je suis convaincu que votre mariage peut être plus heureux et que la clé de son amélioration, c'est vous. Mais certains vont penser, vous ne comprenez pas, je vis avec un alcoolique, ma femme est dépressive, ou mon mari est grossier. D'autres penseront, eh bien, mon mariage ne va pas si mal que ça. La question est de savoir si vous voulez que votre mariage aille mieux. Ma réponse est, c'est possible. Il faut commencer par vous améliorer vous-même. Jésus dit, pourquoi pensez-vous sans cesse aux erreurs de votre conjoint et passez-vous si peu de temps à penser aux vôtres ? Ne savez-vous pas que si vous commenciez par purifier vos propres actions, vous auriez une plus grande influence sur votre conjoint ? Commençons par nous occuper de nos propres défauts et nous pourrons voir des changements chez notre conjoint. Je vais vous aider à développer cette approche particulière du progrès dans la vie de couple. Mais n'oubliez pas que c'est à vous de faire le premier pas.
C'était Les Langages de l'amour de Gary Chapman, une production de l'Institut biblique Moody de Chicago en partenariat avec Phare FM.
His bag is empty, his head full of dreams. He don't walk slowly, he runs through the woods. Just wanna escape the jail they built him. Just wanna explore the world hid from him. It's time to run, 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 to join a sentence. It's time to run, run. No turning back, all he can behold feels
Duke on the vibe.
This year, blessing, money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go.
This year, good news, diet, plenty, money. Go to follow, 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 follow.
Everything I've been wanting, manifesting for my life.
Everything you've been wanting, manifesting for your life.
Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too sure, you don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa, you too sure, for your hand. Money, testimony. Go to follow, 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 follow you they go.
This year, good news, giant, plenty burning. Go to follow, follow.